Bonjour et bienvenue au Cher Radio Minter Dialogue, émission numéro 68. Cette émission est avec Florian Delifer, PDG et cofondateur d'un startup français, Up4, ou Up4 si on veut. Up4 est un type de réseau social ou communauté qui se dit la première communauté privée de précurseurs qui aiment découvrir les lieux et des personnes en déclenchant des rendez-vous au gré de leur humeur. Up4 permet en effet d'utiliser le net, ou plus particulièrement le mobile, pour découvrir des personnes et des lieux hot sur Paris pour faire des rencontres in real life. Je vous laisse découvrir, et si vous écoutez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Allez, bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Ce matin, on est vers la fin août, donc les vacances sont déjà dans le passé, et je suis à un petit café dans le 8e arrondissement à Paris. Et j'ai devant moi un entrepreneur français qui s'appelle Florian Delifer. Florian, est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es et ce que tu fais ?
Bonjour, donc je suis Florian Delifer. Effectivement, j'ai grandi en France, puis j'ai étudié à l'étranger, notamment au Canada, aux États-Unis, en Espagne. J'ai pu étudier le commerce et l'anthropologie. Je me suis ensuite intéressé au branding. J'ai pu travailler au sein de l'entreprise Oliver Wyman dans la branche branding Lippincott. Suite à ça, j'ai rapidement créé mon entreprise, donc qui s'appelle Up4, donc une jeune entreprise française, une start-up qui évolue en fait donc sur la technologie mobile. On a créé une application mobile et un site internet qui permet d'être avec les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment en fonction de son humeur et de sa localisation dans la ville.
Je voulais juste revenir, Florian, avec quelque chose que tu as dit, c'est-à-dire que tu as étudié l'anthropologie. Comment est-ce que tu es tombé sur ce sujet et quel est l'impact que ça a par rapport à ce que tu fais? Hop, pardon, c'est un taxi qui nous klaxonne. Par rapport à ce que tu fais vers Up4.
Alors, c'est vrai qu'en France, on a généralement des approches du marketing qui sont assez orientées sur le quantitatif, sur des études assez quanti. L'anthropologie, moi, c'est vrai que j'ai eu cet intérêt-là quand j'étais en Amérique du Nord, vis-à-vis justement des techniques de marketing et de branding. Je trouvais que c'était une discipline très intéressante quand on s'intéresse aux consommateurs, une discipline assez douce, mais qui permet d'avoir justement des dimensions nouvelles et une approche un peu différente des habitudes de consommation et notamment des différences entre les différentes cultures. Et donc aujourd'hui, directement avec Up4, c'est vrai que ça m'a servi un petit peu dans la formulation de notre produit, de notre marque. Voilà, c'est intéressant de penser un petit peu à toutes ces notions-là lorsqu'on réfléchit notamment à comment les personnes vont réagir aux couleurs, vont réagir à différents concepts qui vont émaner de notre marque.
Alors, parle-nous d'abord donc de Up4. C'est quoi ?
Donc Up4, c'est une application mobile qui permet en fait de faire des rencontres live. Donc vraiment l'humeur du moment qu'on appelle mood dans notre application cristallise la marque Up4, puisqu'elle rassemble un petit peu les notions d'instantanéité, de réalité, de proximité qui sont au cœur justement de cette marque très ludique qui est Up4 et qui permet de faire des rendez-vous à proximité en fonction de son humeur du moment. Donc les différents utilisateurs vont pouvoir se retrouver dans des lieux qui sont en phase avec leur humeur et vont pouvoir le faire de manière très rapide puisque une fois qu'on se connecte, on est directement on a accès aux différents rendez-vous qui sont à proximité dans des lieux à proximité, on peut les rejoindre d'une manière live.
Donc ce qui me plaît dans ce que tu dis, c'est qu'on va y arriver par le mood, l'humeur, c'est vraiment extrêmement humain. Qui plus est, c'est humain et réel, dans le sens où on se rencontre en réel. Par rapport au monde digital, il y a pas mal de personnes qui se mettent dessus. Et c'est ça qui me paraît vraiment innovant dans ce que tu fais. Parle-nous un peu plus de ce que tu penses être
les éléments moteurs différenciants de ton projet.
D'accord, donc effectivement la notion de retour à la réalité pour nous est très importante, c'est un peu de là qu'est venue l'idée initiale du projet Up4. On s'est rendu compte que la technologie, le monde digital avait un petit peu enlevé de spontanéité, d'émotion dans les interactions, puisque les gens passaient beaucoup de temps à chatter sur internet, les interactions virtuelles étaient vraiment longues avant que les rencontres réelles aient réellement lieu. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est effectivement donc pousser les gens dans la réalité, éviter au maximum les interactions virtuelles. Donc il y a la possibilité quand même de discuter une fois qu'on a rejoint un rendez-vous sur Up4, mais l'idée est vraiment que le premier contact s'effectue dans la réalité, dans le lieu, dans le spot Up4. Donc ça c'est vraiment clé. Nous, notre grande différenciation, c'est effectivement qu'on combine donc en fait les lieux, les personnes et le mood. Et c'est justement donc en fonction des lieux que les personnes vont être géolocalisées et vont pouvoir se retrouver directement dans des lieux. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est que ce sont tous des lieux sélectionnés par les membres et qui sont des lieux vraiment à découvrir, qui sont des lieux qui sont fréquentés par des locaux, des insiders, et qui sont généralement des lieux très intéressants dans la ville. On a une sélection aujourd'hui de 500 lieux sur Paris. Et on est assez fiers. On a une des meilleures sélections. On peut regarder dans différents city guides, etc. Nous, on a vraiment la crème des lieux parisiens.
Est-ce que donc il y a combien de membres et comment est-ce qu'on peut savoir quels sont les lieux qui sont dedans?
Alors aujourd'hui on atteint les 5000 membres, on a 500 lieux partenaires qui ont été sélectionnés donc par la communauté. Aujourd'hui pour devenir membre donc on a un système d'invitation, donc les gens qui sont déjà sur Up4 peuvent inviter facilement donc leur entourage. On peut aller dans certains lieux qui sont indiqués sur le site, qui disposent d'invitations et qui permettent justement donc de rejoindre Up4. Une fois qu'on est sur Up4, on a accès à l'ensemble des lieux et on peut voir effectivement les différents rendez-vous qui ont lieu dans ces différents spots Up4.
Il y a donc un élément qui me paraît super intéressant, que c'est mobile first. Donc ça, c'est un point fort, c'est que c'est vraiment pensé davantage sur le mobile que sur le web. Et deuxièmement, ça a l'air pour moi, puisque je le connais pas encore à l'intérieur, moins un réseau social et plutôt un moyen de rencontre en réel. Dis-moi ce que tu en penses de ça.
Alors effectivement, mon réseau social aujourd'hui a beaucoup d'interprétations. C'est devenu un mot qui englobe beaucoup de choses. Aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que la frontière entre des dating websites et des réseaux sociaux est en train un peu d'être diluée. Il y a des discovery apps qui commencent à apparaître. On voit des applications comme Highlights par exemple qui est ce genre justement d'appli. On voit Blender aussi qui a été créé donc par le fondateur de Grindr qui est sur ce créneau-là, où on voit des rencontres qui sont déclenchées sur la base d'activités. Donc les gens vont se rencontrer autour d'activités et vont plus se rencontrer forcément pour faire connaissance avec un but amoureux, mais qui vont justement se regrouper en fonction de leur son intérêt, leurs activités pour tout d'abord partager un moment et partager une activité. Donc effectivement, on est sur un territoire nouveau. Alors après, c'est vrai qu'en réseaux sociaux, on entend tout de suite réseau virtuel. Moi, je pense qu'on peut parler de réseau social réel. Je veux dire, effectivement, c'est un moyen qu'on utilise, qui est la technologie et la passerelle mobile. Mais effectivement, nous, on est un live social city guide quelque part. On peut s'appeler un petit peu comme ça, si on veut trouver une autre appellation que réseau social. Mais pour nous, on est vraiment quand même sur ce créneau-là, un réseau qui va permettre de rencontrer des gens et directement dans la réalité.
Alors, disons que je suis dessus, je suis de passage à côté d'un bar et je regarde, tiens, mon app, ah oui, tiens, il y a des gens, je me sens dans un mood tel, y a-t-il quelqu'un d'autre dans le même mood qui est à proximité? Et oui, et ben, je rentre. Je vois la personne, on se rencontre et puis, quel rôle a l'application dans l'entretien de ma relation avec cette personne?
Donc voilà, avant que la technologie soit omniprésente dans nos vies, on avait parfois l'habitude de croiser des personnes, de s'arrêter, d'être interpellé par ces personnes-là et de dire si on allait boire un café ou si on allait partager un moment, on est juste à côté d'un lieu intéressant, allons-y. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement, comme la technologie avait un petit peu perdu ces habitudes-là, on a essayé de dire c'est finalement avec la géolocalisation, cette notion de proximité, on peut peut-être recréer ces situations assez spontanées, pleines d'émotions et assez authentiques. Donc on s'est dit, on va recréer ces situations-là. Donc aujourd'hui, avec Up4, si on approche effectivement d'un lieu ou si on est dans la ville, on se connecte sur Upfor. Donc la situation dans la version bêta, c'est effectivement on voit les lieux à proximité et on peut facilement voir les personnes à proximité de ces lieux qui sont dans la même humeur que nous et on peut les solliciter pour un rendez-vous dans ce lieu. Alors, donc ça c'est comme ça que ça se passe, donc assez facilement l'application va mettre en relation ces personnes-là en fonction de leur humeur et de leur proximité au lieu. C'est ça le rôle direct que joue l'application. Et en l'occurrence, donc dans la nouvelle version, ça va être encore plus direct puisque quand on va se connecter, on va voir les rendez-vous qui ont été créés à proximité, dans les lieux à proximité. Et on va pouvoir faire des rendez-vous à deux ou des rendez-vous à plusieurs. Donc il y a une notion aussi très conviviale où les gens vont pouvoir se rencontrer pour des rendez-vous à plusieurs.
C'est sur l'app mobile. Quelle est votre approche par rapport au mobile ? Est-ce que vous êtes agnostique ou spécifique ? Et quoi, c'est-à-dire Android, iPhone, etc., iOS. Et comment est-ce que tu perçois l'un et l'autre derrière, connaissant les chiffres derrière ? Comment est-ce que tu perçois la différence des utilisateurs par rapport aux plateformes ?
Alors, très bonne question. Donc, nous, c'est vrai. Donc, d'abord, je reviens sur ce point-là. Nous, c'est mobile first. Donc, tout notre produit est d'abord conçu sur mobile avant de le translater sur le web. Donc, dans toutes les spécifications, le cahier des charges qu'on développe, on pense d'abord mobile avant de le mettre sur web. Pour donc ce qui est des plateformes, donc aujourd'hui effectivement nous on est uniquement sur iPhone pour une raison assez simple, c'est qu'on développe en natif. On a fait vraiment ce choix de pas développer en HTML5 qui est assez limitant, surtout pour une application aussi complexe que la nôtre en termes techniques. Donc effectivement on a fait ce choix de développer uniquement en iPhone. Aujourd'hui on a même revu l'application sur iPhone, donc on s'est aperçu que si on l'avait fait sur Android en même temps, ça nous aurait doublé nos coûts, en tout cas ça aurait augmenté nos coûts de développement, donc c'est aussi un choix budgétaire. Et puis c'est un choix aussi effectivement de population. Bon, iPhone c'est vrai que ça correspond bien à la population qu'on vise initialement. On trouve peut-être aujourd'hui encore plus d'early adopters, mais bon, à la population Android on l'exclut pas du tout, on la souhaite assez rapidement. Dès que notre produit est assez stable sur iPhone, on va développer l'Android et on va aller chercher le marché Android. Par contre, c'est vrai qu'on va se cantonner pas mal à Android et à iOS, sachant qu'aujourd'hui, ça représente, donc là, si je dis pas de bêtises, on est quasiment à 70-75% du marché si on prend les deux plateformes.
Ok, et donc, pour l'instant, Upfor, c'est .fr français, parisien, on va dire, parce que c'est des grandes villes. Quel est l'avenir ?
Donc nous on a une application hyper locale puisque effectivement c'est la géolocalisation qui est au cœur de notre produit. On a une approche effectivement du marché par Global Cities. Dans notre plan aujourd'hui, effectivement, on a des grandes villes européennes. On a inclus pour l'instant Barcelone, Berlin et Londres dans les prochaines villes où Upfor pourrait être établi. On attend d'avoir effectivement donc l'application stable sur Paris pour aller chercher ces grandes villes-là. On a aussi quand même un intérêt à aller sur des villes comme San Francisco, New York ou Tokyo, parce que c'est aussi pour se faire connaître dans des pays où effectivement il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup une population très early adopter qui va peut-être accrocher au produit plus rapidement que des populations européennes.
Si tu regardes Tokyo, encore plus mobile que d'autres pays par exemple.
Voilà, alors Tokyo effectivement très mobile, on va avoir des usagers qui vont être très réceptifs. On a aussi une très forte densité dans cette ville qui nous porte à croire quand même qu'il y a un beau potentiel pour une application qui utilise tellement la géolocalisation. Et ces villes à très forte densité pourront être un très bon marché pour Upfor.
Alors donc ça veut dire développement en d'autres langues et quid d'autres plateformes ? Parce que forcément il y a des choix à se faire tout le temps. Est-ce que ça restera iOS en premier lieu et ensuite, donc c'est juste une question de traduction en langue derrière, et où est-ce qu'il y aura d'autres plateformes ?
Alors, donc là, c'est effectivement mon associé qui n'est pas présent aujourd'hui pourrait peut-être mieux répondre, parce que c'est quand même lui qui s'occupe de tout ce qui est technique.
Comment il s'appelle ?
Donc c'est Yves Attias. Yves Attias, lui qui a créé son agence de communication interactive il y a déjà 6 ans, et donc il a beaucoup d'expérience, qui travaille pour des grands comptes français, et qui lui donc prend en charge en fait tout le développement technique de l'application Upfor. Et effectivement, donc il y aurait effectivement des translations à d'autres plateformes, ça on le fera. Notre idée aujourd'hui, donc c'est peut-être, j'anticipe peut-être un petit peu les questions, notre second round de levée de fonds assez rapidement aussi, ce qui va nous permettre effectivement d'aller plus facilement sur d'autres plateformes et d'autres marchés. Une fois que la version parisienne effectivement a fait ses preuves, on a aujourd'hui un certain nombre de fonds qui suivent un petit peu nos métriques. Et dès que nos métriques nous permettent de lever des fonds à une valorisation qui nous convient et qui nous permet d'aller ensuite sur d'autres marchés, on le fera et on espère que ça va arriver rapidement en début 2013.
Superbe. Donc toi qui as passé du temps 3 ans au Canada, à Montréal comme moi d'ailleurs, du temps aux États-Unis et puis bon franchement à Paris, comment est-ce que tu vois la différence entre, on va dire, ces deux continents en matière de la recherche de la rencontre en réel? Est-ce que tu perçois des différences entre la notion de l'amitié encore, notamment avec les plus jeunes, et un besoin de se rencontrer en réel?
Alors ça c'est une question quand même assez difficile. Moi je perçois pas forcément de grosses différences. Après il y a des distances qui sont liées à la culture qui vont être mises entre les personnes qui sont peut-être différentes d'un continent à l'autre. Plus qu'entre ces différents pays, il y a quand même des segments de la population qui vont être beaucoup plus réceptifs à des concepts de rencontre dans la réalité. Bon là, je pense notamment au segment de la population gay qui est beaucoup plus réceptif et beaucoup plus prête aujourd'hui à aller dans la réalité rapidement. Bon, on le voit avec des applications comme Grindr, effectivement, où les personnes n'hésitent pas et sont très rapidement confrontées à la réalité et n'ont aucun souci avec ça. Après, il y a effectivement quand même plus de questions qui se posent dans le monde hétérosexuel, où on a après peut-être plus d'a priori, etc., notamment chez la gente féminine, qui va se poser plus de questions, on va avoir plus d'interrogations par rapport à ça. Après, entre les pays, c'est un peu difficile à dire. Moi, je pense plus à la population, effectivement, nord-américaine, en particulier les populations des grandes villes comme New York ou San Francisco, qui vont être peut-être plus capables d'adopter un produit, de nouvelles habitudes liées à ce type de produit rapidement, parce que c'est souvent le cas et qu'il y a beaucoup de choses qui sont lancées, qui sont assez innovantes. Et généralement, il y a une population qui est assez prête, justement, à essayer ce genre de produits. Et après, sinon, culturellement, etc., je pense qu'on est quand même sur la même longueur d'onde et qu'on va trouver un peu près les mêmes types d'habitudes.
Ça me fait penser, parce que je pense à Paris, il y a un truc qui s'appelle le café. Donc, on adore aller dans le café, discuter. Et puis, il y a aussi une autre notion qui est bien « old Europe », ce qui est l'amitié. Il n'y en a que 5 et ce n'est pas la peine des autres, ce n'est pas des vrais amis, etc. etc. Donc, cette notion de rester proche dans une amitié profonde, etc., qui reste encore, en tout cas dans la conversation, m'amène à penser qu'il y a des manières de s'encontrer qui sont différentes, donc des moments différents dans la journée, et qui fait que la socialisation, on va dire à Starbucks par exemple, est différente. Et est-ce que, enfin, je suis juste curieux par rapport à ça, parce que c'est juste une conversation entre nous, comment tu vois, est-ce que tu auras besoin, selon toi, de faire des adaptations de la manière de rencontrer les gens par rapport à l'application?
Alors voilà, nous effectivement on est convaincu qu'on va avoir des adaptations culturelles. C'est sûr qu'il y a des comportements différents, voilà, pour le coup. Alors là, c'est pas juste donc, par rapport à un concept de réalité, mais quand on est aux États-Unis, quand on est à New York, par exemple le dating qui est complètement accepté, les gens se posent aucune question, peuvent rencontrer quelqu'un et faire une date, et c'est totalement dans les habitudes américaines, beaucoup moins dans les habitudes françaises. Donc il y a effectivement des concepts à prendre en compte quand on va dans d'autres pays, et on va devoir adapter. On va devoir tout de même adapter effectivement notre application. Après, on essaye de faire en sorte qu'effectivement on soit le plus scalable possible et de ne pas avoir non plus tellement d'adaptations suivant les marchés.
Bien sûr. Alors l'autre chose, dernière question sur Force, c'est on est basé en France, donc Paris, et donc soumis au CNIL. À quel point est-ce que c'est intéressant ou handicapant par rapport à une expansion à l'extérieur?
Alors, excellente question. Alors là, nous, alors c'est pas vraiment encore, à vrai dire, c'est pas vraiment posé ces questions-là encore, notamment pour notre expansion à l'extérieur. C'est sûr que ça va peut-être représenter des contraintes.
Je prends un exemple. Moi, je m'inscris et je marque que j'ai 48 ans, je suis blanc, je suis à WASP. Non pratiquant, je sais pas quoi. Donc ça, c'est ces critères-là plus ou moins acceptables dans certains pays.
Ouais. Alors donc du coup déjà ouais c'est ça. Mais la CNIL a déjà aussi pas mal de critères, donc On pense qu'il y aura effectivement peut-être un peu de changement à faire par rapport à ça. On va regarder ça en détail au moment où on va devoir aller à l'étranger. On va devoir faire les adaptations nécessaires. En tout cas, nous, on a fait en fonction effectivement des critères imposés par la CNIL.
Alors donc Florian Dalifert, donc on attend fin septembre la nouvelle version de App4.fr. Est-ce qu'il y a un point App4.com ou comment ça va se faire à l'extérieur? Tu as d'autres URL?
Alors effectivement, nous on a pris pour l'instant des URL par pays puisqu'on a une approche hyper locale et on aime bien justement avoir l'adresse du pays puisque on a une approche par ville. Voilà, mais effectivement au fur et à mesure qu'on va s'étendre, on va devoir avoir le .com. Aujourd'hui le .com est possédé par un Canadien qui est un blogueur et avec qui on est déjà en contact, mais effectivement on n'a pas le .com aujourd'hui.
D'accord. Bon, enfin, donc Florian, je te remercie pour ça. Je comprends, il y a plein d'éléments compliqués qu'on a fait un roll-out. Mais Florian, donc toi qui as beaucoup navigué dans le monde digital et geek, dis-nous comment tu restes à jour, quel est ton agenda, enfin ton hygiène digitale le matin?
Alors déjà je tiens à préciser que c'est assez agréable d'avoir aussi des associés qui sont très impliqués dans la vie de notre start-up. Et j'ai la chance d'avoir effectivement aussi des actionnaires qui me tiennent au courant de beaucoup d'articles qu'ils arrivent à voir. Et généralement, j'ai déjà pas mal d'articles très pertinents qui me parviennent justement des personnes qui tournent un peu et qui gravitent autour d'Up4. Que ce soit donc des associés, des actionnaires ou même les ambassadeurs, parce qu'on a un groupe d'ambassadeurs avec un certain nombre de blogueurs, un certain nombre de contacts assez stratégiques finalement pour notre développement. Et on arrive déjà à se tenir assez au courant. Donc après, on a effectivement des flux RSS, on a des choses comme ça qui sont mises, notamment mon associé qui suit ça de près et qui me fait suivre les informations les plus pertinentes. On a après voilà, on regarde beaucoup TechCrunch, French Web, toute la presse geek française qui parle aussi de ce qui se passe à l'étranger et qui est généralement assez pertinente pour nous.
All right. Florian Dalifert, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bon courage pour la V1 après le bêta et j'espère qu'on poursuivra notre rencontre en In Real Life ailleurs.
Très bien, bah merci beaucoup. Et donc on va créer éventuellement donc un code d'invitation spécial donc pour les auditeurs de ce podcast.
Génial, merci pour ce rajout à la fin. Super, merci.
Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, themindset, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.